Vos questions, nos réponses.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur France Alzheimer, la radio. Chaque année, des milliers d'aidants se trouvent confrontés à la question de l'hébergement de leurs proches malades, maintien à domicile, habitat partagé, relayage. Quelles sont les alternatives à l'EHPAD et dans quel cas sont-elles envisageables? Pour répondre à vos questions, nous recevons Vanessa Dupuis. Bonjour Madame Dupuis.
Bonjour.
Alors vous êtes neuropsychologue et il se trouve que vous travaillez vous-même au sein de structures et d'ateliers qui représentent des alternatives à l'EHPAD. Vous avez entre autres participé à l'ouverture d'une des premières plateformes de répit dans le Calvados et vous participez aussi à la mise en place d'une alternative assez particulière.
Oui, tout à fait. Qui est plutôt récente sur le territoire français et qui nous vient du Québec, qui est le baluchonnage. Alors en France, en fonction des régions, donc on parle de baluchonnage ou de relayage ou encore de suppléance de l'aidant à domicile.
Eh ben, on va pouvoir en parler, c'est un assez vaste sujet en fait. Mais pour commencer, quand on parle d'alternative à l'EHPAD, l'idée c'est avant tout de trouver des options qui permettent au patient de rester plus longtemps à son domicile, dans de bonnes conditions, en sécurité. Et c'est important de prévenir l'épuisement de l'aidant, c'est ça ? Dans quel cas on peut penser en fait à des alternatives ?
Alors, il y en a plusieurs des alternatives. Alors, il y en a qui sont à destination des aidants, d'autres des aidés. Ces alternatives-là, elles s'adressent aux personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer avec comme objectifs principaux. Donc, d'un côté, ça va être la mobilisation de l'aidant, la mobilisation de ses capacités cognitives, de ses capacités sociales et relationnelles. Et de l'autre côté, pour l'aider, puisque vraiment toutes les alternatives qui sont proposées, elles ont vraiment cette double ambition qui va être de lui proposer à lui des temps de répit, des temps pour souffler, puisqu'on sait qu'un aidant qui va être reposé, qui va pouvoir avoir encore un peu de temps pour lui, sera un aidant qui va tenir plus longtemps au domicile. Et finalement, c'est ce que cherchent à faire toutes ces alternatives-là, c'est à reculer le plus tard possible le moment où la question d'une entrée en institution devra se poser.
Et alors justement, vous avez parlé de répit. Il y a ce qu'on appelle des plateformes de répit. Est-ce que vous pouvez nous en parler? De quoi il s'agit?
Alors, c'est un dispositif qui a été mis en place au début des années 2010 par l'ARS. Dans chaque département, il y en a une ou plusieurs. Elles ont des fonctionnements qui peuvent être un petit peu différents, mais il y a un socle un peu général. Et l'idée de la plateforme de répit, c'est de proposer du personnel formé et spécialisé et qui, sur des temps dédiés, une journée ou une après-midi ou une matinée, vont venir à domicile, passer donc plusieurs heures avec la personne aidée et lui proposer des activités. Ça peut être des jeux de société, des petits exercices de mémoire, de la cuisine, des balades, enfin voilà, tout un panel d'activités possibles. Et pendant ce temps, l'aidant, lui, il sait qu'il peut quitter son domicile, s'absenter, donc soit reprendre des activités qu'il faisait avant et qu'il ne fait plus parce qu'il ne peut pas laisser le malade tout seul, ou juste bah, aller s'aérer la tête, marcher, faire ses courses, prendre ses rendez-vous. Et le coût pour les aidants est relativement faible. Alors, en fonction des plateformes, elles ont des fonctionnements un peu différents, mais par exemple, certaines fonctionnent sur une adhésion annuelle, une cinquantaine, soixantaine d'euros, ou alors sur un coût d'intervention. On est sur une dix-quinzaine d'euros l'intervention.
On est sur quelque chose d'accessible.
C'est ça. Et c'est un dispositif qui est plébiscité puisque il n'y a pas de limite dans le temps, à part les limites de l'adhésion ou en tout cas de la participation. Les personnes souvent se déplacent à domicile entre une, deux ou trois fois par mois, en fonction du nombre de personnes qui sont accompagnées par cette plateforme. La plupart des plateformes fonctionnent comme ça. C'est toujours la même personne qui va au domicile. Ce qui permet à tout le monde, en fait, à l'aidant, d'avoir un visage connu, un repère, une personne qui devient familière, à l'aider de pouvoir développer un lien de confiance plus important aussi. Et du coup, au fur et à mesure de chaque intervention, pouvoir s'autoriser un petit peu plus de répit, de loisirs, de liberté dans ces créneaux de disponibles. Et puis, pour la personne qui intervient, elle aussi, elle finit par connaître le couple aidant-aidé et elle devient un vrai soutien pour eux. Et un soutien aussi dans le repérage, justement, des signes qui pourraient amener à plus de propositions d'alternatives différentes.
Ça crée une relation de confiance qui peut être rassurante, en tout cas, pour toutes les personnes impliquées.
Exactement.
Et alors, on parle aussi de l'accueil de jour ou des haltes-relais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est quoi la différence entre les deux?
Alors, il y a quelques accueils de jour autonomes, mais la plupart du temps, les accueils de jour sont adossés à une maison de retraite. Donc c'est un lieu d'accueil pour les malades, donc qui sont accueillis sur une journée entière. Ils arrivent le matin, ils repartent en fin d'après-midi, ils déjeunent sur place. C'est des locaux indépendants des maisons de retraite, mais qui sont quand même dans le même bâtiment. C'est des groupes, alors ça peut aller de 6 à 15 personnes accueillies la journée. Ils sont encadrés par des aides-soignants la plupart du temps, ou une infirmière. Il peut y avoir aussi l'intervention d'un psychologue. Et puis, il y a plein d'activités qui leur sont proposées. L'idée étant de, sur une journée entière, en fait, les faire participer le plus possible à la vie de l'endroit dans lequel ils se trouvent, puis de créer des liens aussi entre les personnes présentes.
C'est ça, ça leur permet de sociabiliser aussi.
Exactement, parce que c'est souvent des gens qui sont très isolés. Même s'il y a un aidant ou des enfants pas loin, il n'y a pas tellement de conversation, c'est très fonctionnel, ça tourne autour, t'as pris ton petit déjeuner, t'as pris tes médicaments. Alors que quand ils viennent à l'accueil de jour, ou pour le coup dans les haltes relais aussi, là, ils sont dans une situation nouvelle avec des gens nouveaux, où ils retrouvent aussi un rôle un peu dans la société. Voilà, ils redeviennent une personne avec un intérêt particulier et une curiosité qu'on peut avoir pour eux. On est aussi là pour orienter les relations entre eux, puisque si on les laisse tous ensemble, le lien social se crée pas de la même façon que si il y a ces professionnels qui sont autour et qui vont, eux, créer cette dynamique et la relancer tout au long de la journée.
Exactement. D'ailleurs, en parlant des professionnels et de ces ateliers, l'association France Alzheimer propose des ateliers de mobilisation cognitive. Vous en animez vous-même. Que proposez-vous aux malades, en fait, lors de ces ateliers? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier?
Alors moi, j'interviens pour l'association France Alzheimer 76, donc la Seine-Maritime, et plus particulièrement pour la ville du Havre. Et donc nous, on a un format un peu différent peut-être d'autres associations, puisque nous, on propose des ateliers qui durent 3 heures. Et les gens viennent tout l'après-midi avec nous. On réunit un groupe de entre 8 et 9, 10 personnes maximum. Donc tous des personnes qui ont des troubles cognitifs, Alzheimer ou apparentés, et qui vivent encore à domicile. Donc ils viennent avec un aidant ou seul, peu importe. Et en fait, ils viennent passer l'après-midi avec nous. On commence toujours par un petit temps convivial autour d'un café. Et puis nous, après, les neuropsychologues, on connaît le fonctionnement cognitif. On sait ce qui fonctionne plus chez ces malades-là. On sait ce qu'on peut solliciter ou pas. Et en fonction de ça, nous, on propose des ateliers, donc des exercices, en fait, hein, qui vont nous permettre de mobiliser les compétences. Alors, principalement, les compétences préservées, puisqu'on n'est pas sur de la rééducation, on est vraiment sur de la mobilisation. On va créer, souvent, on est un peu bricoleur en même temps. On va créer des exercices qui vont stimuler les capacités langagières, les connaissances sémantiques, qui vont les amener à travailler autour du raisonnement, par exemple. On peut faire un peu de calcul, de la géographie, de l'actualité. Le panel d'exercices qui peut être proposé est très, très large. Mais pour vous donner un exemple, ça peut être des quiz différentes de si vous faites juste un quiz à la maison, quoi. Nous, forcément, on va aller chercher des chemins de pensée un peu différents.
Adaptés à la maladie, en tout cas.
Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse dans ces activités-là, c'est pas tellement que les malades nous donnent les bonnes réponses. C'est pour ça qu'on dit aux aidants souvent de pas trop proposer d'activités comme ça à la maison quand ils n'avaient pas l'habitude d'en faire avant ensemble.
Oui, ça pourrait les mettre en situation d'échec, en fait.
Exactement. Et les deux, parce qu'en fait, moi, si je demande à quelle saison on ramasse les cerises, et qu'un malade me dit à l'automne, moi j'y vois pas forcément une mauvaise réponse. J'y vois, c'est pas la bonne saison, mais c'est quand même une saison. Là où l'aidant, lui, va juste voir, oh là là, mais il sait même plus quand est-ce qu'on ramasse les cerises, c'est une catastrophe. Sauf que moi, ce que j'entends derrière sa réponse, c'est que déjà, il a compris ma question, puisqu'il m'a pas dit une réponse qui serait complètement à côté de la plaque et qui aurait rien à voir. Et ça veut dire que quand même, il était présent, il a écouté, il a été capable de donner une réponse. Et du coup, c'est la preuve que, en tout cas, nous, notre mobilisation, elle fonctionne. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils participent. Parce que quand ils participent, ils mobilisent leurs compétences sociales en premier, puisque personne ne se coupe la parole, on se laisse parler, on attend que le suivant a donné sa réponse avant de donner la sienne. Il y a tout un côté valorisation, puisqu'en fait, quand l'un d'eux nous donne un bon mot ou une bonne réponse ou une remarque pertinente, souvent les autres sont très admiratifs et le félicitent. Et voilà, tout ça, c'est que du bonus, quoi. Quand ils arrivent la première fois, on leur dit ça va durer 3 heures. Ils trouvent ça très long. Et finalement, la première participation, quand on leur dit bon, allez, on y va. Mais comment ça, on y va, c'est déjà fini. On n'a pas vu le temps passer. Donc, nos ateliers, comme l'accueil de jour ou les haltes relais, généralement sont proposés de façon régulière. C'est-à-dire que nous, les gens qui viennent le lundi en atelier, reviennent tous les lundis. La première fois où ils viennent, ils sont dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et puis au bout de déjà 2-3 séances, il y a une espèce de familiarisation qui s'installe. même s'ils sont pas capables de dire comment s'appellent les gens qui sont présents, en tout cas quand ils les voient, ils les reconnaissent, ils reconnaissent les qualités de chacun et ils sont tous contents de revenir se retrouver. Je sais que j'ai une dame, à chaque fois elle dit « Ah, je suis contente quand c'est le vendredi parce que je sais que je vais bien rigoler ». Pour nous, on a gagné quand ils nous disent des choses comme ça. J'ai un monsieur qui, chez lui, n'ouvre pas la bouche, il parle très peu. Quand il est avec nous, on peut plus l'arrêter. Il nous fait des séances d'impro et à chaque fois quand je le dis à sa femme quand elle vient me chercher, elle est à chaque fois scotchée parce que...
Il se révèle finalement.
Oui, c'est plus ça, c'est pas tellement des aspects de la personnalité qui n'étaient pas connus, mais en tout cas ça réveille des réflexes, des compétences qu'ils avaient avant. Mais c'est des choses malheureusement qui, avec cette maladie-là et l'un de ses symptômes qui est l'apathie, donc si on n'est pas là pour les mobiliser, ces compétences-là elles sont un peu endormies. Ils ne peuvent pas les réveiller tout seuls. Ils ont besoin d'être accompagnés, mobilisés. Et c'est plus facile par quelqu'un qui est extérieur à leur vie personnelle. Ça passe plus facilement. Et ils s'y prêtent avec plaisir.
Et alors, ces ateliers, tout comme les autres solutions dont vous nous avez parlé, ont l'avantage de présenter des bénéfices aussi bien à l'aidé qu'à l'aidant. Et alors, une dernière alternative dont j'aimerais bien qu'on parle ensemble. Depuis quelques années en France, vous l'avez dit, mais depuis bien plus longtemps au Québec, d'où l'idée est venue, il y a ce qu'on appelle le baluchonnage ou le relayage. En quoi ça consiste exactement? Comment ça s'opère? Comment ça se prépare? J'imagine qu'il y a des étapes importantes en plus ça dont vous allez pouvoir nous parler.
Oui, alors le baluchonnage, le terme québécois est vraiment bien trouvé. Relayage, ça parle un peu moins, mais le baluchonnage, typiquement, c'est un professionnel de la relation, de l'accompagnement, qui prend son baluchon et qui va poser son baluchon chez un couple aidant aidé et qui va, pendant plusieurs jours, rester au domicile avec la personne malade et permettre ainsi à l'aidant, que ce soit une épouse, un enfant ou peu importe, de prendre du temps pour partir. Il y a une association qui s'appelle Baluchon France donc qui propose un cadre adapté et validé par les créateurs au Québec, qui fait que on intervient minimum sur des créneaux de 36 heures. Schématiquement, c'est un week-end entier. Le baluchonneur va arriver le samedi matin. L'aidant va, après une période de transition de quelques heures, prendre son propre baluchon et s'en aller. Donc, l'exemple typique, c'est aller voir ses enfants, aller à la communion, au mariage, etc. Parce que parfois, c'est plus possible pour le malade de pouvoir participer à ces événements. Et le malade, lui, reste dans ses habitudes, dans sa maison, et il y a juste quelqu'un de nouveau qui est là avec lui et qui va passer le week-end avec lui. Donc, c'est aussi finalement un week-end de vacances parce que il a cet environnement qu'il sécurise. Et puis, à l'intérieur de cet environnement sécurisant, il y a une nouvelle personne qui est là et qui va lui faire des propositions, des suggestions de promenades, de jeux de société, de discussions, de plein de choses. Donc, c'est aussi finalement une bulle d'air pour le malade.
Et ça peut aller jusqu'à 6 jours complets et consécutifs avec le même baluchonneur, ce qui peut effectivement laisser le temps à l'aidant de s'octroyer une petite parenthèse ou de petites vacances éventuellement, et ce en toute sécurité, ce qui n'est pas négligeable.
Alors la plateforme de répit, l'accueil de jour, toutes ces dispositifs, c'est du répit au quotidien. On a une petite respiration toutes les semaines. Toutes les semaines, on sait que le mardi, on va avoir son après-midi ou la journée pour pouvoir... faire ce qu'on a à faire tranquillement. Le baluchonnage, c'est vraiment redonner un esprit de liberté, c'est du temps retrouvé. Et savoir que pendant ce temps-là, on peut partir l'esprit tranquille. On peut téléphoner tous les jours, on peut prendre des nouvelles. Les gens le font le premier, le deuxième jour, puis quand ils voient que tout se passe bien, ils s'autorisent à lâcher prise un peu plus. Et généralement, les gens qui reviennent d'un premier baluchon en voyant que le malade, finalement, c'est comme s'ils n'étaient pas partis ou ils auraient pu partir 2 semaines de plus, ça n'aurait pas dérangé beaucoup plus. Généralement, ces gens-là réitèrent. Et la deuxième fois, le lâcher-prise arrive beaucoup plus vite. Et il y a moins de culpabilité.
Justement, qu'est-ce qui facilite le lâcher-prise? Il faut pouvoir avoir confiance. Là, on parle quand même de 2 ou de 6 jours même. Il y a des étapes de transition, en fait, pour habituer la personne aidée à cette nouvelle présence. Et puis, pour que l'aidant, lui aussi, ait le temps de faire confiance à cette personne qui va s'occuper pendant 6 jours à domicile de la personne malade.
Alors, c'est pas des solutions qu'on peut mettre en place en urgence. C'est forcément des solutions qui sont préparées en amont. Généralement, c'est bien d'avoir 3 mois avant, fixer les dates, ce qui permet au service qui va organiser le baluchonnage de trouver le bon baluchonneur, puisque chaque baluchonneur va être choisi en fonction aussi de la situation, de la durée de la demande de baluchon, et puis de la personne qu'il va falloir accompagner. Enfin voilà, tout ça se travaille en amont. Après, il y a une première visite à domicile qui est faite, ce qu'on appelle souvent les visites de courtoisie, entre l'aidant et la personne baluchonneuse pour faire le tour du logement, montrer les spécificités de l'appartement. Et puis généralement, à ce moment-là, l'aidant prépare un petit planning de le lundi matin, il a ça comme rendez-vous. Le soir, il aime bien regarder la télé de telle heure à telle heure. Et souvent, il y a déjà tout un petit carnet avec les habitudes de vie du malade qui sont notées. L'aidé est là ce jour-là quand le baluchonneur vient se présenter. Donc on discute avec lui parce que généralement on est quand même sur des gens qui sont encore capables de pouvoir enregistrer certaines informations et comprendre que quelqu'un va venir passer du temps avec eux pendant que son aidant s'absente. Donc voilà, il y a des présentations qui sont faites et puis le temps va passer. Et le jour où le baluchon commence, l'aidant et le baluchonneur, en fait, ça dépend des baluchons, ça dépend si c'est la première fois ou... Mais il y a toujours un temps de chevauchement, en fait, où le couple aidant aidé et le baluchonneur sont ensemble tous les trois dans la maison, jusqu'au moment où on dit au revoir à l'aidant, on lui souhaite bonnes vacances, et puis à ce moment-là, le baluchonneur prend clairement le relais.
Et l'aidant part avec son baluchon.
C'est ça. Et puis l'idée là derrière tout ça, c'est aussi c'est préparer. Donc c'est pas facile comme décision à prendre pour les dents de se dire allez, je vais utiliser ce service là. Généralement, il y a les enfants qui poussent derrière, mais si tu devrais essayer, ça va être super. Dans la tête de l'aidant, il y a cette projection déjà, dans 3 mois, je serai en vacances, je vais voir mes petits-enfants, je pourrai faire ça avec eux. Donc ça devient des vraies vacances en fait. C'est comme quand on prépare nos vacances, on les prépare plusieurs mois avant, on se fait un programme, etc. Là, finalement, c'est ce qui se passe aussi. Les aidants qui reviennent à la fin d'un baluchon sont généralement conquis par leur propre expérience d'être partis loin ou longtemps, par la relation qui s'est tissée entre l'aidé et le baluchonneur. Et ils en sont tellement conquis que généralement, quand ils redemandent d'autres relayages, c'est là le piège, c'est qu'ils veulent toujours le même baluchonneur.
C'est ce que j'allais vous demander, est-ce que c'est la même personne? Dans l'idéal, c'est ça?
C'est que c'est pas tout, dans la mesure du possible, mais pour vous donner un exemple, moi j'ai une baluchonneuse qui s'appelle Marie, qui est formidable, et qui intervient depuis 3 années de suite chez une même personne, une semaine l'été parce que la dame vit avec son fils, et son fils fait une semaine de randonnée tous les ans. Et donc, pendant que lui va randonner, Marie passe la semaine avec sa maman, la première année. Donc la deuxième année, fallait que ce soit Marie absolument. Donc la deuxième année, c'était Marie. La troisième année, la dame ne veut que Marie, donc on a réussi à ce que ce soit encore Marie. Mais il y a un moment donné, des fois, nous, les baluchonneurs s'envolent vers d'autres aventures.
Marie est très demandée.
C'est pas toujours possible que ce soit toujours Marie. Donc après, ça se travaille aussi. Mais effectivement, il y a, en plus de la confiance dans le dispositif, c'est vraiment la relation avec le baluchonneur qui est importante, quoi.
Tout ça a-t-il un coût? Est-ce qu'il y a des aides pour le baluchonnage? Est-ce que c'est accessible?
C'est le petit point noir du baluchon. Ça dépend des départements. Puisqu'en fait, c'est des initiatives de services souvent portées par des services à la personne où il n'y a pas de financement à proprement parler pour le baluchonnage.
D'accord.
Et donc, toutes les heures qui sont travaillées sont payées, donc facturées. Mais selon les départements, je sais que par exemple, en Seine-Maritime, ils ont une aide au financement. Dans le Calvados, on a réussi aussi à avoir une aide pour le financement. Mais vraiment, c'est pas le cas partout. Mais en tout cas, l'idée de Baluchon France, c'est de tendre vers un reste à charge pour les familles aux alentours d'une centaine d'euros par jour, qui revient à un tarif de séjour temporaire finalement.
Ça reste envisageable en tout cas, et vous voyez vraiment les bénéfices auprès des personnes qui utilisent en tout cas ce service du baluchonnage?
Complètement. Et les personnes souvent qui utilisent le service de baluchonnage sont des gens qui sont attachés au fait que la personne malade puisse rester à la maison pendant leur absence. Les séjours temporaires qui existent dans tous les établissements, c'est formidable. C'est un dispositif qui a toute sa place dans cet environnement. Mais effectivement, le baluchonnage, ça correspond à d'autres cas particuliers. Et par exemple, le cas typique du baluchonnage, parce qu'on parlait d'une semaine, mais c'est un week-end de 3 jours pour un mariage. Les séjours temporaires, en fait, proposent pas des accueils pour 3 jours. C'est très rare et c'est compliqué. Et donc, c'est vraiment un dispositif qui a toute sa place et qui, on l'espère, va pouvoir être pérennisé dans le temps.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Dupuis, de nous avoir fait le point sur ces différentes formes d'alternatives. J'imagine, bien sûr, que l'idéal pour le duo aidant-aidé, ce serait d'essayer de mixer ces différentes options.
Oui, elles sont toutes complémentaires et il n'y en a aucune qui est excluante. C'est-à-dire que vous pouvez très bien bénéficier d'un accueil en accueil de jour, en même temps d'un service de plateforme de répit, avoir une fois dans l'année un séjour temporaire ou un séjour de baluchonnage. Voilà, tout ça est complémentaire.
En tout cas, voilà, on voit clairement les bénéfices pour les deux, les aidants et les aidés. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en faire part et de nous avoir aussi expliqué ce que c'était que le baluchonnage, qui est quand même assez nouveau en France.
Merci à vous.
On vous retrouve en tout cas pour d'autres épisodes, donc n'hésitez pas, si vous nous écoutez, à faire un tour sur le site de la Radio France Alzheimer. On espère que cet épisode aura pu vous aider, vous donner des idées d'alternatives à l'EHPAD. N'hésitez pas à le partager autour de vous et merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.